Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Ben.
Salut à tous.
Et de notre ami tout à fait réveillé, ATH.
Bonjour à tous. Je vois pas de quoi
ça
tu parles.
Ça va pas trop dur la semaine, ATH?
J'ai pas envie d'en parler.
Voilà. Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons d'Atari, on enchaînera ensuite sur Doom, nous évoquerons également Ark Survival Evolved avec Ben, on parlera de Might and Magic Showdown, le fameux jeu d'Ubisoft avec des figurines, on enchaînera ensuite encore une fois sur Mass Effect Andromeda, qui poursuit son petit bout de chemin après sa release catastrophique. Nous évoquerons le fiasco de Niantic, le Pokémon Go Fest. On enchaînera ensuite sur le remake de Crash Bandicoot. Et enfin, on terminera cette semaine d'actualité sur les changements de prix de l'Oculus Rift. Et oui, c'est les vacances, l'actu, c'est pas tip-top, hein, désolé, mais écoutez, on va faire avec. Allez, on va commencer, messieurs, avec Atari. Donc, Atari, mon cher Ben, qui a décidé de sortir une nouvelle console.
Exactement, ouais, on avait appris lors du dernier E3 qu'il comptait sortir une nouvelle console, alors on n'en savait pas grand-chose. Là, on a quelques informations de plus, notamment un peu le design de la console, et surtout... On n'en sait pas beaucoup plus au niveau des jeux qui seront présents. On nous dit qu'il y aura d'anciens titres, peut-être de nouvelles productions, mais vraiment c'est...
Oui, parce qu'en gros, c'est la NES Classic Mini d'Atari.
Ça part vraiment dans cette direction. Alors, est-ce qu'ils disent pas, ils n'ont pas précisé qu'il n'y aurait que des anciens jeux. Donc, on peut espérer qu'il y en aura des nouveaux, mais aujourd'hui, c'est quand même... Enfin, ça sent plus la NES Mini ou la Super NES Mini qu'autre chose, hein.
En fait, on sait même pas quelle console d'Atari il va l'émuler, quoi. Est-ce que ce sera tous les jeux d'Atari? Par contre, alors, il faut avouer une chose, c'est que la console est un peu plus stylée qu'une NES Classic.
Ouais, Mini, elle a un bon look, ouais. Elle a une bonne tête.
Mais à part ça, on sait rien, en fait. Ça fait un peu comme Nintendo, quoi. C'est-à-dire, alors tiens, on a son catalogue, on sait pas trop quoi en foutre. Bah écoute, on va mettre ça dans une console un peu design et puis...
Ça sent en plein nez, ça. Après, bon, on sait pas encore, mais c'est vrai que vu le succès qu'a eu Nintendo, on dirait qu'ils veulent un peu surfer sur la même vague, ouais.
Voilà, bon après, c'est pas notre génération, donc nous ne jugerons pas.
Ouais.
Peut-être que certains nostalgiques... Enfin, si, en fait, on va juger, parce que déjà, on jugeait de notre génération. Désolé, parce que faut arrêter, là, je veux dire, c'est encore un pur objet de collection pour les gens qui n'ont que ça acheté, quoi.
Donc, oui, voilà.
Alors, celle-là, je suis pas persuadé qu'elle se vende par brouette sur eBay, hein.
Voilà, après, c'est toujours pas, il faut attendre le prix, les jeux qu'il y aura dessus, plein de choses. Mais voilà, ça reste un objet de collection et qui sera en plus pas grand public, je pense.
Mais j'avoue, quand même, d'un point de vue design, il y a un bel effort, je trouve.
C'est vrai.
Voilà.
Et en plus de ça, il y a le choix, il y a deux couleurs. Il y a donc soit la première en noir et bois, et puis la deuxième en noir et rouge. Personnellement, je préfère celle en noir et bois. D'un point de vue purement esthétique, ça fait un bon truc assez vintage. Après, ouais. Voilà, comme on a dit, Atari, je pense que c'est beaucoup moins grand public que Nintendo. Et même un Sega, tu vois, c'est clair et net. Mais bon, je pense que pour les gens un peu plus âgés qui ont connu l'Atari 2600 et toutes les conneries avec l'Amstrad CPC et toutes les déclinaisons qu'il y avait à l'époque, peut-être que voilà, ça va toucher ce type de public-là. Mais bon, je suis vraiment pas sûr que ça a la même aura qu'à Nintendo, parce que vraiment, Nintendo, c'était un peu eux qui avaient lancé le game à l'époque avec la NES et surtout la Super NES qui a eu... un vrai catalogue bien fourni. Là, franchement, tu me demanderais de citer
avec
un jeu d'Atari.
Avec le Seal of Quality et tout.
Ouais, voilà. Alors qu'à l'époque, Atari, il y avait beaucoup de jeux qui sortaient un peu comme ça, sortis de nulle part. Par exemple, je me souviens d'avoir vu une vidéo sur un jeu où c'était un espèce de shérif qui allait violer des indiennes, un truc totalement dégueulasse, ou bien même un mec était sur un immeuble et qui crachait du sperme et les nanas en bas devaient avaler. Enfin, tu vois, c'était...
Bah, c'est un peu comme Sim aujourd'hui, quoi, tu vois, il y avait n'importe quoi qui sortait dessus.
Voilà. Mais, donc, c'était une vraie usine à gaz, il n'y avait pas, bah, justement, le contrôle qualité des jeux, et donc, tu peux te retrouver avec des jeux...
Un peu bizarre.
C'est ça. Et puis après, on se souvient tous qu'il y avait aussi le fameux E.T. qui avait foutu le boxon. Enfin, on lui met sur le dos la fin du jeu vidéo, enfin là une des grosses chutes du jeu vidéo, mais bon je pense que personnellement c'est pas que de sa faute quoi, parce que vu ouais. toutes les merdes qu'il y avait à côté.
C'est ça. Ouais,
bah, c'était la goutte d'eau voilà. Et avec la fameuse légende urbaine qui a été vérifiée après, des cartouches enterrées dans le désert ouais. qui ont été retrouvées par la suite. Voilà. Bon, allez. Bah en tout cas il y aura du tri à faire. Mais à mon avis par contre ça doit être un micmac sur le plan du droit d'auteur.
Ouais, juridiquement
ce truc,
je pense que ça doit être compliqué. Ouais.
Après je, voilà. je crois qu'Atari, si j'ai pas de bêtises, ils avaient quand même leur propre licence. Bah déjà le E.T. de l'époque c'était eux qui l'avaient fait, donc je pense que c'était un peu comme Nintendo, ils avaient leur propre catalogue. Donc peut-être qu'ils vont sortir tous leurs jeux comme ils avaient fait à l'époque, vous savez, sur les PS2, tout ça, il y avait les remakes Activision et Atari, où t'avais 30 jeux ou je sais pas combien, enfin des jeux des années
ouais,
70,
des espèces de compil de jeux, ouais.
un truc totalement moche qui était vendu le prix d'un jeu classique. Peut-être qu'à mon avis c'est juste la même chose, sauf que c'est le packaging qui change en fait.
Peut-être. Ouais. Ouais.
Allez, on va passer à la suite et je vais vous parler de Doom. Qui a eu droit à son update 6.66, attention, et surtout dont un certain nombre de DLC, enfin même tous les DLC multijoueurs vont être intégrés au jeu de base en fait. Ce qui me laisse un peu ambivalent sur le sujet parce que d'un côté je trouve ça bien pour les gens qui ont le jeu de base, en plus tu sais ça évite de fractionner les communautés en multi entre ceux qui ont les DLC et ceux qui les ont ouais. pas, mais par contre là où je grince un peu des dents, c'est que ces DLC, il y a quand même des gens qui les ont payés. Et il y a a priori pas de gestes qui ont été faits vis-à-vis de ces gens-là, et je trouve pas ça très réglo. Et dans tous les cas, ça fait partie de ces changements qui, je pense, n'incitent pas trop les gens à acheter des jeux Day One.
Ouais, c'est toujours le même problème avec ces choses. Ça part d'un bon sentiment, dans le sens où, en plus de la baisse de jeu, de proposer des DLC gratuits, c'est bien. Mais c'est toujours ceux qui ont acheté en premier qui sont lésés dans l'histoire. Alors, c'est souvent le cas. Enfin, on a eu le contre-exemple avec Ark, on va en reparler, vous en avez déjà parlé la dernière fois. Mais c'est souvent ce cas-là, c'est que le jeu sort, les gens l'achètent parce que bah, ils ont envie d'acheter, etc. Et plus tard, il y a des week-ends gratuits, des week-ends où les DLC sont gratuits. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et c'est vrai que c'est toujours pareil. Les acheteurs Day One sont lésés.
Alors, précision, donc les DLC incluent des cartes, des armes, des bestioles à buter, de l'équipement. Ah oui, ça fait quand même pas mal de choses. Ouais. Je comprends pourquoi, en fait, ils ont débloqué ça pour tout le monde, parce que s'il y a un truc qu'il faut jamais faire en multijoueur, alors même si on est d'accord que Doom, c'est un jeu dont le multi a pas spécialement marché, enfin, des retours que j'avais eu, en tout cas, à la sortie, c'était pas spécialement l'intérêt du jeu. Mm-hmm. C'est toujours problématique quand t'as un multi fractionné, surtout avec des cartes. Enfin, ça, c'est vraiment le truc.
Oui, les cartes, c'est le gros problème, ouais.
Qu'il faut jamais faire.
Ah bah non, tu prives la moitié des joueurs, enfin c'est compliqué.
Ça aurait été bien en fait que ça soit réfléchi dès le début, parce que quoi qu'il arrive en fait, je pense que malheureusement les gens qui ont eu le jeu, bah ils vont pas y revenir. Et puis là le fait que le jeu baisse de prix, parce qu'il y a aussi ça dans la promotion, c'est que le jeu passe à, je crois, à une
là il
est à
15 euros ce week-end, ouais.
C'est ça.
Ouais, alors par contre, juste une précision, je suis mauvaise langue, vous aurez droit à un badge si vous avez acheté les DLC.
Ça fait toute la différence.
Voilà, voilà. Bon, allez. Alors, Ben.
Oui.
Tu aimes Ark, hein, je crois.
J'y ai joué, j'ai joué 2-3 heures.
Ouais, 2-3 heures, oui, c'est
deux,
ça.
3 heures multiplié par.
C'est un peu
450.
Comme Mordran, il a joué 2-3 heures aussi.
Non, j'ai quand même beaucoup moins d'heures que Mordran.
Bon, toi, tu n'avais pas l'obligation d'y jouer aussi.
Ouais.
Pour faire des
pour
vidéos.
Pour une chaîne YouTube, ouais.
Toi, ouais. T'étais un peu son stagiaire, quoi.
C'est ça. Quand j'avais envie, je le rejoignais et puis voilà quoi.
Bon, par contre, je voulais quand même te demander ton avis, parce que on a appris récemment, donc je le rappelle, que Ark avait augmenté de prix.
Enfin, elle augmenterait pour la sortie, ouais.
Ouais, mais le truc c'est que il a augmenté, ça y est là.
Oui, là.
Alors que l'accès anticipé est toujours pas fini, ils ont augmenté le prix. Et il y a un certain nombre de personnes, tu sais, qui voulaient l'acheter avant la release. Qui ont commencé à gueuler parce que ils comprenaient pas, l'accès anticipé n'était pas fini. Donc pourquoi avez-vous augmenté de prix alors que l'accès anticipé n'était pas fini? Bah on a eu une explication cette semaine. Je rappelle que le jeu est maintenant vendu à 60 balles, donc c'est-à-dire le prix d'un AAA. Hein, ouais. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que d'après les explications, je crois, c'est le Game Director. Apparemment, ils ont eu un problème avec la release boîte, c'est-à-dire que les magasins se rendant compte qu'il y a une version des maths à 40 balles aurait refusé de commercialiser le jeu s'il était moins cher en démat
que physique, ouais.
En physique. Donc c'est pour ça qu'ils auraient dès maintenant mis le jeu à 60 balles sur Steam parce qu'il y a les précommandes.
Bullshit.
Moi ça j'y crois.
Ah bon?
Je pense qu'ils ont vraiment eu des discussions sur le fait que le jeu ils voulaient mettre à 60 balles en matérialisé et 40 balles en démat.
Ouais.
Et qu'on leur a dit vous êtes gentils mais non.
Ah non mais ça je suis d'accord, mais moi je pense qu'ils auraient pu mettre le jeu aussi à 40 balles en magasin et 40 balles aussi en dématérialisé, comme
oui,
ça il y aurait pas eu de problème.
Ça on est d'accord.
Enfin le jeu comme comment il s'appelle, le jeu avec les voitures là qui font du foot,
Rocket League.
C'est un jeu qui a un succès d'abord en dématérialisé, qui après les éditeurs Sony a dit ce jeu fonctionne bien. Bah si je le mettais en rayon. Et du coup, quand il est arrivé en rayon, il était à 40 balles. Il y a même des jeux comme Shovel Knight qui sont arrivés, ils coûtaient 30 euros. Donc je pense pas que, tu vois, 60 euros, c'est le prix magasin. Le prix magasin, c'est le prix que tu veux mettre.
Ils voulaient se faire plaisir en magasin, et ils ont été greedy, et les magasins leur ont dit, vous êtes gentils, mais...
Voilà.
En démat, c'est le même prix. Hein.
Exactement.
Donc voilà. Ben, du coup, est-ce que toi, qui as pas mal joué au jeu quand même, 60 balles, toi est-ce que tu aurais craqué ou pas?
Je ne pense pas. Alors après, c'est toujours pareil. À l'époque, on l'avait acheté parce qu'on comptait jouer à plusieurs avec Mordren, qu'il était pas cher, même si on a essuyé quelques plâtres, on va dire.
Ouais, en plus, vous y avez joué à 3, je crois.
Ouais, on y a joué même à 4 à un moment. Enfin ouais. Bon, on a fait quand même les parties très chiantes du jeu. Alors aujourd'hui, moi, ça fait, je pense que un an que j'ai pas dû y mettre les mains dessus. J'ai écouté le podcast, voilà, la semaine dernière où Mordren expliquait qu'il était retourné un peu pour voir. Après c'est toujours pareil, si le jeu est bien optimisé et que on aime l'expérience multi, je pense que ça peut valoir 60 euros parce que c'est quand même un jeu où on peut y passer énormément d'heures. Donc après c'est là où c'est compliqué, si le jeu est pas mal optimisé toujours et tourne pas bien par exemple sur des petites bécanes ou sur console, parce que ça c'est vraiment la grande interrogation, ça les vaut vraiment pas. Mais par contre, moi, c'est un jeu, j'ai passé, je crois, plus de 200 heures quand même.
Alors que bon, tu es pas le plus gros joueur.
Voilà, exactement, ouais. Alors je me dis que si j'avais mis 60 euros, enfin, pour passer plus de 200 heures sur un jeu, c'est entre guillemets rentabilisé.
Ouais, mais en gros, t'es voilà. En train de dire ce qu'on a dit la semaine dernière, en fait, t'es comme la Suisse, tu prends pas position.
Non, ah non, moi franchement, aujourd'hui, ça m'aurait pas dérangé si j'avais mis 60 euros à l'origine du jeu.
Enfin, à l'origine, dans la version quand il y a joué, qui était, le jeu était pas optimisé.
Non, si le jeu avait été avec du contenu d'entrée, ouais. Mais après, c'était un early access, donc tu sais toujours, voilà, les early access, tu peux avoir des problèmes de performance, de serveurs qui crashent, enfin, ça fait partie du truc aussi. Ouais. Alors en plus, on a déjà parlé, c'est un jeu qui a été super bien suivi et entretenu par les devs pendant énormément de temps, jusqu'à l'histoire des DLC, etc. Donc, franchement, c'était une expérience un peu difficile parfois pour un early access, mais ça a été pendant un long moment un bon modèle d'early access. Donc aujourd'hui, si le jeu tourne bien, après l'histoire de la campagne entre guillemets solo de l'histoire, je pense que c'est du bullshit parce que si tu joues à ce genre de jeu, c'est pas vraiment pour ça. C'est comme l'histoire avec Battlefront, etc. Donc bon, voilà. Mais par contre, ouais, je pense que 60 euros, ça les vaut.
S'il est optimisé.
Ouais, s'il tourne. Mais ça, c'est pareil entre guillemets pour tous les jeux. Hein,
non, mais ça, je suis d'accord parce que moi,
mais
voilà.
Ben, est-ce que tu penses pas que par exemple, imagine, bon, je vois ce que tu veux dire en termes de contenu. C'est vrai que c'est un jeu qui a énormément de contenu. Mais est-ce que déjà c'est pas énormément de contenu? Alors je sais que le terme est dur, mais moi c'est comme ça que je le perçois. Est-ce que c'est quand même pas énormément de contenu artificiel quand même? Je m'explique. Je n'ai pas joué avec vous à l'époque et tu sais très bien pourquoi. Parce que je voyais le temps que vous passiez dessus à faire des trucs que moi je juge sans intérêt. Enfin, je veux dire passer 3 heures à endormir un dino pour essayer de le capturer, c'est quand même pas le truc le plus passionnant du monde, quoi, quand même. Après, bon, ça, c'est mon point de vue, mais je trouve que quand même, c'est un jeu qui, même dans ses paramètres, on va dire, de vitesse est plus élevé comme le fait Mordren, use et abuse du grind pour te faire passer énormément de temps dessus.
Ah oui,
quoi.
Non, mais ça a été son gros problème. Si tu joues en mode, on va dire, normal, sans accélération de craft, de récolte, de quoi que ce soit, c'est vraiment une plaie. C'est vraiment terrible. Enfin, il faut vraiment aimer ça, et c'est, voilà, comme tu dis, c'est assez artificiel, parce que si tu mets 15 ou 20 heures pour capturer un dinosaure, enfin si tu joues en plus sur un serveur public où donc le temps défile tout le temps, enfin il faut être chômeur c'est pour y jouer. Voilà. Donc il y a pas de voilà, c'est très compliqué. Après
et
oui.
Et même moi qui suis chômeur en ce moment, j'ai pas envie d'y jouer.
Oui, mais toi t'aimes pas, c'est mais je vois, enfin je prends un exemple à la con, j'ai mon petit voisin qui a 13 ou 14 ans qui l'a eu sur PS4 donc aussi en accès anticipé sur PS4 et il y joue tout seul et il se régale. Parce qu'il a accéléré les paramètres serveur et que l'expérience solo lui plaît assez pour y jouer assez de temps. Donc d'accord. Après, c'est assez compliqué. Je pense que naturellement, il faut aimer quand même passer du temps et qu'il y ait un peu de grinding. Parce que ça fait partie de l'expérience du jeu dans le sens où tu vas commencer, où tu vas avoir des armes de premier niveau et ta maison en bois, etc. Et tu vas améliorer tout ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est une évolution normale que tu peux avoir. Après, voilà, le gros problème, c'est qu'il faut que tu joues en accéléré. Sinon, en plus, si tu joues tout seul, enfin, c'est juste interminable.
Mais Ben, tu sais que démarcher les gens dans les immeubles pour leur vendre des jeux, c'est interdit. Enfin, vendre ça à ton voisin 14 ans.
En plus, il a fait la pub de la chaîne Mordren et tout. En fait, c'est un des gars, tu sais, qui est allé sur la chaîne de Mordren. Mordren, c'est pour quand le prochain épisode de l'arc?
Il s'est mis en costard dans son immeuble.
Bonjour. Avec un petit pin's arc.
C'est notre produit arc.
Non, mais tu vois, j'ai appris par hasard qu'il jouait sur console. À l'époque, je savais même pas, tu vois, qu'il était sorti sur PS4. J'avais tellement plus suivi le truc. Et lui, il était content de l'expérience parce qu'il avait pu, modifier tout de suite les paramètres. Nous, quand on a commencé le jeu, on était obligé de jouer sur des serveurs publics et sur lesquels il y avait pas d'accélération possible. Donc là, c'était vraiment très dur.
En plus, je me rappelle qu'à un moment donné, Morgan avait essayé de paramétrer ses serveurs. C'était assez
Ah ouais, au départ, c'était. Mais bon, voilà, comme on a dit, ça fait partie d'un early access. Quand t'achètes en plus quasi la première semaine un early access, tu sais que tu vas te manger des trucs dans les dents, quoi. Ça fait partie du truc. Mais bon, voilà. Après, je vous comprends aussi dans le sens où vous dites que s'il était sorti à 40€, il aurait pu sortir à 40€. Mais je pense que voilà, si on aime le style à 60€, on peut aussi y trouver son compte. Après, moi, personnellement, j'achète quasi aucun jeu à 60€, hein. Donc, c'est vrai que j'achète rarement un jeu AAA dès sa sortie à plein tarif. Donc, j'aurais peut-être pas fait pour celui-là. Mais après, voilà, je me dis qu'avec un peu de recul, ça peut les valoir.
Mais le truc, c'est que JE, c'est moi, ma réflexion derrière, c'est que aussi 60€, d'une manière générale, je trouve ça trop cher.
Voilà, exactement. C'est que ce soit pour celui-là ou pour un autre.
Je rappelle quand même que le démat, à l'époque, on nous a vendu ça en mode, vous allez voir, les jeux, ils seront moins chers. Hein, donc,
Mais surtout là, sur la news de Ark, moi, je critiquais pas le prix qu'il soit à 60€ ou bien à 40€, c'est pas ça le problème.
Oui, surtout que je rappelle que nous, on était plutôt pour le fait qu'ils augmentent le prix, en fait.
Voilà, c'est parce que moi, je trouve ça normal, quoi. C'est un travail derrière et que voilà, la qualité est là.
Et en plus, pour le coup, ça permet aux early access, enfin, à ceux qui ont pris la early access, de se sentir moins lésés. À l'inverse de ce qu'on disait avant, le fait que voilà, les gens achetaient le jeu moins cher, ils ont essuyé les plates, mais ils ont payé le jeu peut-être moitié prix, même pas, je crois qu'on l'avait payé 20 ou 22€ quand il était sorti, le jeu. Un truc comme ça, donc.
Ouais, mais en même temps, ceux qui ont payé le jeu à 20, 22€, c'est normal. Vous avez payé un jeu qui était en cours de développement.
Ouais, mais il y a des early access où c'est pas toujours le cas, hein.
Ce qui est déjà moins normal, c'est qu'il soit vendu actuellement en early access parce que il est toujours buggé, là, actuellement. Il n'y a pas eu le patch final, voilà.
Ouais.
À 60 balles, là. Bon, après, les gens achètent en connaissance de cause.
Voilà, c'est le phénomène. Ouais, on n'a pas envie de se faire qu'il y ait un pic des ventes avant la sortie parce que le jeu était encore à 20€ et qu'après, il passe à 60. Ça, c'est vraiment une histoire marketing-commerce. Hein. Voilà, c'est pas très cool, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de studios qui auraient fait la même chose. Hein.
Bon, allez. On va maintenant parler, Ben, d'un jeu que j'avais déjà évoqué ici, que dans le principe, en tout cas, d'un point de vue des figurines, me plaisait bien, c'est Might and Magic Showdown.
Bah oui, c'était donc une nouvelle licence, entre guillemets, Ubisoft. Pas une nouvelle licence, mais un nouveau style. Un mélange de MOBA et, comme tu disais, un peu de stratégie à base de figurines. Le concept était plutôt sympa, parce que un peu changeant par rapport à ce qu'on connaît.
Bah disons que ce qui plaisait surtout c'était le côté je vais peindre mes figurines parce que la partie MOBA concrètement
oui c'était pas un MOBA très évolué, on va dire c'était assez basique dans son truc, mais par contre voilà il y avait tout ce côté là qui était vraiment sympa. Et malheureusement on a appris que fin juillet c'était fini, donc les serveurs vont être carrément éteints, donc il y a même pas de d'espoir ou quoi que ce soit. C'est voilà, 31 juillet c'est fini. C'est assez difficile pour les gens qui l'ont justement acheté. Pour revenir, voilà, c'était pareil, c'était une sorte d'early access et qu'il avait payé une 20aine d'euros et qui, ben là, on vous dit, ben c'est fini, vos 20€, tant pis, sauf s'ils suivent un peu, ils peuvent se faire rembourser d'ici la fin du mois.
Pourquoi d'ici la fin du mois? Enfin, t'as fait de la merde, tu rembourses, point. Enfin...
C'est ça. Là, ça veut dire que les gens qui sont partis en vacances ou qui voilà. ne... Alors après, je sais pas s'ils ont envoyé un mail à tous les gens qui avaient acheté pour leur expliquer, je suis pas sûr, ils ont juste fait a priori un communiqué sur Steam. Tu vas pas tous les jours sur la page de tous tes jeux Steam voir ce qui se passe, s'il y a des communiqués, etc. Donc après, c'est toujours pareil, ça fait partie des risques de l'accès anticipé, mais comme tu dis, dans ce cas-là, tu t'es raté, tu rembourses. Les gens ont quand même acheté un jeu qui, alors je sais plus quand c'est qu'il est sorti, mais il est pas très vieux, ça fait même pas un an. 6 mois, ouais. 6 mois pour fermer un truc, c'est pas très cool pour les gens qui l'ont acheté.
Voilà. Par contre, j'espère que le principe des figurines à peindre, ils le reprendront pour un autre jeu. Ubisoft, Game Workshop. Il y a un truc à faire, là. Bon, après, je sais pas si Game Workshop acceptera de faire un jeu avec des figurines qu'on peut peindre en virtuel, parce que, leur fonds commerce, c'est un peu ça, donc, mais voilà. Bon. Dans tous les cas, l'accès anticipé...
C'est assez
même
risqué.
Quand t'es un gros, j'ai envie de dire surtout quand t'es un gros parce que eux ils hésitent pas à qu'il y ait un projet. Hein.
Oui, non mais après c'est dans l'idée si le truc marche pas, plutôt que d'essayer artificiellement de le faire vivre avec des mécanismes à la con, je trouve pas ça incohérent de fermer le truc plutôt que de partir dans le mur et de proposer de la merde à tout le monde quoi. Mais après voilà, c'est dans ce cas-là, t'as fait de la merde, tu rembourses.
Surtout que là apparemment le jeu a pas du tout marché, donc il doit pas y avoir masse de gens à rembourser, tu
vois.
Alors que pour une boîte comme Ubisoft,
oui, c'est pas la
fin
du
monde. Même d'un point de vue image de marque, tu pourrais faire un effort quoi, faut arrêter de déconner quoi.
Ou offrir notre jeu, j'en sais rien, mais faire un petit truc ouais.
Bon, allez, on va parler d'un autre jeu qui s'est planté, n'est-ce pas? Alors, sauf que lui, vous pourrez pas vous le faire rembourser, c'est Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda, donc, je le rappelle, avant que le jeu sorte, il y avait eu une espèce de démo de 10 heures qui était dispo pour ceux qui payent un abonnement chez Origin, je crois.
Ouais...
Quand t'es abonné EA Access, sur Xbox One et PC, tu peux jouer 10 heures aux prochaines sorties des jeux qui vont sortir une semaine à l'avance pour te faire une idée du jeu. Ou puis voilà. Si et puis ce qui est bien, c'est que ça te laisse la sauvegarde une fois que t'as fini tes 10 heures. Quoi.
Voilà. Fait exceptionnel, vous pourrez jouer 10 heures, mais n'importe qui. Hein, il suffira d'avoir un compte Origin. Vous pourrez jouer à Mass Effect Andromeda pendant 10 heures. Ils ont ouvert la démo à tout le monde. Parce que on se doute que le jeu a pas marché, hein, voilà. Et vous pourrez profiter des patchs qui sont sortis dernièrement. Alors pour être très honnête avec vous, de ce que j'ai vu, ça a pas l'air ouf. Hein. Enfin,
il y a une petite amélioration, mais c'est toujours pas ouf. Oui.
Voilà. Mais après tout, si le système de jeu est bon, pourquoi pas en promo à la limite, vous pourrez essayer pour voir si ça peut vous plaire. Je vous avouerai que personnellement, même pour une démo de 10 heures, j'ai pas le temps. C'est dire à quel point il me hype, hein, Mass Effect Andromeda. Même une démo de 10 heures, j'ai pas envie de l'essayer. Mais en tout cas, ça peut être intéressant pour les gens qui hésitaient. Ça,
exactement, pour les gens qui avaient juste vu le tollé qu'il y a eu avec l'histoire des visages, etc. Se dire que là, ils vont pouvoir vraiment le tester et se faire un vrai avis. Parce que c'est toujours pareil, entre une vidéo... En plus, si tu le prends sur PC, entre ta config, les configs que tu vois sur les vidéos, c'est jamais la même chose.
En plus, les vidéos qui se focusent sur les moments...
Voilà, c'est toujours pareil, si tu vois que les mauvais moments. Donc après, ça reste une bonne chose. Ils savent qu'ils se sont plantés, qu'ils ont fait des conneries. Ils essaient de s'améliorer, ils proposent ça. Ça part d'un bon sentiment. Alors après, ça veut pas dire que tout le monde va se ruer dessus. Parce que,
Oui, et puis ça change rien au fait qu'ils ont traité le studio qui a sorti ça comme des malpropres et que... C'est dégueulasse.
Mais ils essaient quand même de faire quelque chose et ça, on peut, c'est quand même, ça part d'un bon sentiment.
Bon. Alors, ça va être l'instant trop lolo, n'est-ce pas? On va parler de Niantic et de Pokémon Go, c'est exceptionnel. C'est dire si on n'a vraiment rien à dire sur l'actu, cette semaine.
Et pourtant, Mordred n'est pas là.
Pokémon Go. Mais là, en fait, je voulais vous en parler pourquoi? Parce que c'est un pote qui m'a montré ça hier soir et ça m'a bien fait rigoler. En gros, il y a eu un tournoi de Pokémon Go qui a été organisé à Chicago. Alors c'est genre, tu sais, un peu comme la Minecon, une espèce de
grand rassemblement.
C'est mi-tournoi, mi-convention, tu vois, où t'as énormément de monde. Ils ont foutu tout ça dans un parc en plein air à Chicago. Et mon cher Ben, tu devines ce qui s'est passé, toi qui es un ingénieur réseau, n'est-ce pas? Et ben, il se trouve que le réseau,
il a pété,
il a implosé, tu vois. Et du coup, tous les trucs qu'ils avaient mis en place, les gens ne pouvaient pas jouer. Ils avaient essayé de mettre en place un système qui suivait en temps réel toutes les actions des joueurs, qui répertoriait sur un tableau de bord quelle équipe avait gagné, ce genre de choses. Et tu vois, il y a une photo que j'avais vue à un moment donné où t'as le tableau qui est vide, en fait, il y a aucune donnée qui s'affiche dessus.
Les pauvres.
Et du coup, surtout les pauvres, c'est les employés qui étaient sur place.
Ah
parce
bah,
que
ils ont dû prendre cher, hein.
C'est affreux, quoi. Imagine une foule en colère regroupée au milieu d'un parc. Pas la petite foule, hein, c'est énorme. Et t'as une pauvre nana toute seule sur une scène qui doit gérer la crise avec des connards en plus qui balancent des bouteilles sur la scène pourquoi pas. Le PDG de Niantic qui s'est fait huer en direct. Enfin bref, le online chez Nintendo, c'est toujours pas ça.
Non mais là, c'est très ambitieux ce qu'ils ont essayé de faire, parce que comme tu dis, rassembler autant de monde au même endroit dans un espèce de grand parc avec une connexion pour partager des trucs et tout, enfin c'est pas un truc de petite ampleur, hein, c'est bien compliqué.
Il faut des bonnes grosses infrastructures pour gérer ça, parce que je dis que c'est un tournoi, mais il y a aucun tournoi, tu vois, où t'as autant de monde qui joue en même temps sur le réseau, quoi.
Ouais, puis en plus c'est un réseau mobile, c'est un truc qui est beaucoup moins stable qu'une espèce de grosse LAN avec de l'Ethernet de partout, etc. Là, c'est du mobile, alors c'est compliqué. Hein.
Mais c'est comment, là? C'est tous les gens qui restent de Pokémon Go, c'est tous les rescapés, parce que j'ai un peu l'impression que le jeu est mort, quoi.
Alors, j'ai discuté un peu avec justement ce pote-là. Alors lui, de ce qu'il ressent à Paris, effectivement, c'est plus trop ça. Mais par contre, c'est toujours un des jeux qui génère le plus de revenus en mobile. Hein. Même si la hype est retombée, il y a toujours une population très active dessus. Et vu le monde qu'il y avait à la convention...
Ça marche encore,
en tout cas, aux États-Unis, il y a du monde. Hein. Et d'ailleurs, pour se faire pardonner, du coup... parce que t'imagines bien que... Alors certes, déjà, il y avait des gens qui avaient payé un billet. Donc, ils ont remboursé les billets. Ce qui est le minimum, hein, oui. Parce que concrètement, il n'y a pas eu de tournoi, finalement. D'ailleurs, je précise, hein, pour dire à quel point je trouve que ce jeu est pas terrible, il n'y a pas de PVP dans Pokémon Go. Hein.
Il devait en ajouter, mais j'ai pas suivi, je sais pas si ça a été fait ou pas encore.
D'après ce qu'il m'a dit, leur infrastructure réseau est... Voilà. D'un autre temps.
Non, mais moi, en fait, pour moi, j'ai du mal à considérer Pokémon Go comme un jeu, en fait.
C'est un jeu d'apport. En fait, que tu vas faire dans les transports en commun, quand tu te balades, mais c'est pas un jeu, voilà, tu vas pas jouer chez toi à Pokémon Go, c'est sûr.
Non, c'est même pas question que tu joues chez toi ou dehors, je trouve que c'est plus un truc, tu fais de la collecte ou ce genre de choses là, mais...
Oui, c'est un truc pour passer le temps,
voilà,
quoi.
Voilà, c'est ça, mais après, je vois, parce que, encore, il y aurait eu, ça aurait été le Pokémon Game Boy, mis sur mobile et que tu marches dans la rue et tu rencontres un dresseur, et là, genre, tu fais comme dans Yu-Gi-Oh, c'est l'heure du duel, vous mettez les téléphones à côté, Bluetooth, et puis vous faites un combat, un truc comme ça, j'aurais dit, ok, là, c'est un jeu, tu fais progresser tes Pokémon, c'est un truc sur long terme, mais là, à part la capture, voilà, qui te fait balader dans les coins, j'ai plus vraiment que c'est un jeu, on va dire.
À la limite, pour moi, c'était plus une app sociale à l'époque.
Ouais, aussi, ouais.
C'était vraiment ça, l'intérêt de Pokémon Go. Enfin, c'est ça qui a fait exploser le truc, quoi. C'est que les gens, en fait, autour de Pokémon se rencontraient, quoi.
À un moment, on parlait de Nintendo, voulait faire des applications santé, ce genre de choses-là. Mm. Bah, pour moi, ça serait plus un truc qui entrait dans ce genre de catégorie avec
un
aspect.
C'est plus un truc qui incite les gens à se balader, tu vois, à aller visiter des lieux. Bon, sauf que depuis, ça a pas mal changé parce que, au départ, tu sais, c'était, visiter un monument, tu vois, ce genre de choses. Mm. Et puis, au fur et à mesure, ça a été aller au McDo. C'est tout de suite beaucoup moins patrimonial, quoi, on va dire.
Bah, on va dire c'est beaucoup plus mercantile, quoi.
Voilà. Bref. Ah oui, en fait, si jamais il y avait des Français qui étaient là-bas, vous aurez aussi droit également à un Lugia gratuit. Hein, ça vous remplacera pas le billet d'avion, mais vous aurez droit à un Pokémon légendaire, au moins. Hein, voilà.
Et c'est que pour les Français ou bien c'est pour genre...
Ah non, mais...
Non, c'est pour tous les gens qui étaient présents à la conf.
Je reprécise, c'était un événement aux États-Unis, à Chicago, donc. Et donc, toutes les personnes qui étaient présentes sur place auront leur billet remboursé, plus un Pokémon légendaire. Voilà. mais ce qui ne remboursera pas les billets pour ceux qui s'étaient déplacés.
Bon, ça bon, va, après, si c'est pour un
Louis, si t'étais allé aux États-Unis pour un événement de Pokémon Go, j'imagine que si t'étais allé pour visiter aussi.
Ouais,
parce que
c'est,
sinon,
y aller que pour ça, c'est un peu too much.
Non, mais moi, franchement, voilà. je veux bien payer billet d'avion, je reste chez moi. S'il m'envoie le Louia, ça va, quoi.
La collectionnite n'a pas de limite. Allez, on va maintenant parler de Crash Bandicoot, messieurs, et surtout du remake de Crash Bandicoot. Mm-hmm. Alors, le remake est sorti récemment, n'est-ce pas? Et j'ai appris une chose, moi, en regardant les réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'est qu'apparemment, les gens galéraient beaucoup plus dessus, et ça a été confirmé par la suite... sur pas mal de sites, dont notamment Eurogamer, où il y a un des mecs qui bosse sur le jeu qui a dit, écoutez, oui, c'est vrai qu'il est... notamment le premier épisode est plus difficile, parce que en fait, ils ont retravaillé la jouabilité, notamment du premier épisode, parce que, si vous voulez, ils se sont rendus compte que les épisodes 2 et 3 étaient plus évolués que le premier en termes de jouabilité, ils étaient plus aboutis en fait, et du coup ils ont appliqué la jouabilité du 2 et du 3 au premier, plus le fait qu'ils ont un peu changé la physique des sauts, et d'une manière générale effectivement la difficulté est plus élevée. Par contre, ils ont essayé de moduler ça avec le fait qu'ils ont remis, tu sais, le système du 2 et du 3 où quand tu mourais en boucle, ils te donnaient des espèces de masques là, tu sais,
t'aider, pour, ouais.
T'aider les à masques de Aku Aku.
Voilà, c'est ça. Ce système qui n'était pas présent dans le premier, donc.
Mais alors moi, en fait, j'ai la compilation.
Ah, tu aimes te faire mal à TH.
Non, bah c'est pas ça. C'est que moi, j'ai beaucoup de familles, des jeunes enfants qui viennent chez moi et je vais pas les faire jouer à The Evil Within, tu vois.
ouais. Après, le truc, c'est que est-ce que tu penses pas que Crash Bandicoot, en termes de jouabilité, c'est un peu hardcore pour des gamins aujourd'hui?
Non, nous à l'époque, on avait bien joué avec ça, donc. Je pense pas que...
Ouais, mais moi, j'ai pas un souvenir plaisant, hein, moi, je te le dis, sur Crash Bandicoot.
Ah bon, enfin, moi...
Enfin, j'avais souffert. Hein. Enfin, comment te dire ça? J'avais pas trouvé le jeu mauvais, parce qu'en fait, j'adorais la direction artistique, j'adorais l'ambiance. Mais en termes de plateforme, enfin, moi, je trouvais que c'était un jeu... des passages où... à la croix, en plus, où tu... Enfin, c'était très des sautes hyper millimétrées et tout, et j'avais galéré en fait.
Toi, tu parles de quel épisode en particulier? Du premier?
Du 2 et du 3.
Parce que moi, je me rappelle, j'avais pas joué ni au 1 ni au 2, mais à l'époque, j'avais eu le 3 que j'avais retourné dans tous les sens. Et franchement, le jeu, enfin moi, le 3, j'ai trouvé que c'était un jeu, voilà. Enfin, la difficulté pour nous à l'époque, c'était pas la même qu'on avait aujourd'hui, donc j'ai pas souvenir d'avoir un jeu qui était difficile de ouf ou bien qui était injuste.
Bah, c'est que c'était pour moi, c'était mon premier jeu de plateforme 3D, en fait. Et c'est pas pareil qu'un jeu de plateforme 2D.
Ah non, mais non. Ça c'est sûr.
Et je peux te dire que Crash Bandicoot, c'est très particulier à appréhender, surtout dans ces phases de, un peu en mode runner, tu sais, où tu courais et tu voyais les obstacles qui arrivaient au fur et à mesure, en fait.
Ah, tu veux dire les phases Indiana Jones?
Et tu avais les phases où tu voyais Crash de face, si tu veux. Qui arrivait vers toi, en fait. Et donc, du coup, à chaque fois, tu voyais les obstacles au dernier moment.
Oui, oui.
Et moi, ces phases, j'ai trouvé super frustrantes, quoi. J'aimais pas du tout, parce que tu vois tout le temps les obstacles au dernier moment et tout. Enfin, c'était limite du par cœur, quoi, en fait.
Ah bah, c'était la répétition, ouf, ouais.
Voilà. Donc, vraiment, moi, c'est un jeu, j'ai galéré, quoi, à l'époque. Mais j'appréciais, hein, mais... Disons que c'est une expérience, on va dire, qui m'a marqué, mais...
pas dans le bon
pas
sens.
Pas forcément pour le plaisir. Enfin, c'était un plaisir majoriste, quoi, on va dire.
Ouais. Si t'as galéré à l'époque, bah alors là, tu vas encore plus galérer, parce que, effectivement, j'ai joué un petit peu au premier. Et du coup, la différence avec la version PlayStation 1, c'est que bah déjà, maintenant, il y a une physique, en fait, dans le jeu. Alors que dans avant, par exemple, si Crash Bandicoot avait un pied qui était sur une plateforme et le reste du corps était plané sur le vide, et bah, il tombait pas. Parce que, voilà, c'était les collisions qui étaient gérées comme ça sur PS1. Là, maintenant, il y a un vrai moteur physique, on va dire. C'est-à-dire, quand tu vas sauter sur une caisse ou quelque chose comme ça, si le poids de Crash n'est pas suffisamment bien centré sur la plateforme ou quelque chose comme ça, il va tomber dans le trou. C'est-à-dire qu'avant, il y avait certaines plateformes, bah, tu pouvais gruger un petit peu avec la physique un peu aléatoire, ouais, on va dire, des certains éléments. Là, non, si tu fais un pas de côté qui est pas bon, Crash va tomber dans le trou.
T'es puni tout de suite, là, ouais.
Voilà, c'est ça. Et même, je sais pas si c'est dû à ce remake ou si c'est dû à mes souvenirs, mais j'ai l'impression que les sauts sont beaucoup moins précis qu'avant. J'ai beaucoup plus de mal à apprécier certaines distances.
Alors, de ce qu'ils disent, en fait, il y a avant de tomber, en fait, il y a une espèce de flottement qu'il n'y avait pas avant, si tu veux, de ce que j'ai compris.
Oui, il y a l'air d'avoir quelque chose comme ça, parce que je ressens pas le feeling que j'avais à l'époque. J'ai beaucoup de mal, parce que j'ai encore les quelques réflexes de Crash Bandicoot 3 de l'époque. Mais là, quand j'essaie d'y rejouer, bah, mon cerveau, il bug un peu, parce qu'il comprend pas trop ce qui se passe par rapport avec l'ancienne version.
Bah, il y a ta mémoire musculaire qui dit, mais je comprends pas, c'était pas comme ça.
Mais apparemment, enfin, les développeurs, j'ai vu qu'ils avaient posté une news disant qu'il fallait mieux commencer par le 2 et par le 3, et puis ensuite revenir sur le premier, parce que le premier, c'est le plus dur, en fait, du remake. Mais moi, enfin, je trouve ça un petit peu bête dans les remakes, surtout qu'enfin, tu commences en général, tu fais les épisodes.
Bah, tu fais dans l'ordre, ouais.
C'est ça. Mais après, on va dire, voilà, Crash Bandicoot, moi, c'est un
jeu. Oui, c'est pas l'histoire.
Voilà. Moi, je sais très bien que j'ai pris ce jeu-là pour mes petits cousins, mes petites cousines. Comme ça, quand ils vont jouer, voilà, ils vont passer le temps. Moi, si je veux me faire une petite partie de temps en temps, surtout que c'est pas un jeu à histoire, donc je peux le finir dans 20 ans, c'est pas grave, parce que.
Ouais, c'est vraiment pour te y jouer de temps
en
temps.
Voilà, je peux picorer un niveau ou deux quand j'ai une petite nostalgie de me refaire un peu de Crash, je peux le refaire. Mais je trouve ça vraiment un peu embêtant que le premier, il a un tel cap de difficulté par rapport au remake du 2 et du 3.
Surtout que, apparemment, c'est celui où il y a eu le plus de changements, quoi, parce que. Ils ont appliqué beaucoup de mécaniques du 2 et du 3 au premier, quoi.
Oui, mais ça, je trouve ça pas bête dans l'idée, parce que le 2 et le 3, ils étaient quand même. Il y avait quand même certaines améliorations. Donc moi je trouve ça pas plus bête, mais après je trouve que ils auraient pu faire quelque chose de encore plus harmonieux pour que vraiment t'as pas le premier qui soit dur et après t'as le 2 et le 3 ça soit un peu la partie facile du titre, quoi.
Alors que bon, d'un point de vue level design, le premier c'est pas le plus ouf, quoi. Alors ils ont rajouté au passage un stage qui n'existait pas à l'époque, qui n'avait pas été inclus dans le jeu. Et pourquoi il n'avait pas été inclus dans le jeu? Parce que, en fait, c'était un stage qui était beaucoup trop dur. C'était un des derniers stages sur lesquels ils ont bossé, de ce que j'ai compris. Et en faisant les tests, ils s'étaient rendu compte que non, c'est pas possible. On n'aura pas le temps de moduler la difficulté pour la release. Donc, du coup, on retire ce stage du jeu. Et donc, ils ont inclus ce stage-là. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne, c'est Stormy Ascent, je crois que ça s'appelle, le stage. Il va falloir le télécharger, par contre.
Et il faut le télécharger rapidement. Enfin, je trouve ça bête parce qu'après, il va passer à 3€. Même si vous n'avez pas le jeu, téléchargez quand même. Si vous avez l'intention de l'avoir un jour, téléchargez-le maintenant parce que, enfin, 3€ pour un stage, ça fait quand même cher le stage, quoi.
Voilà. Surtout si c'est un stage pas. Alors, j'imagine qu'ils l'ont retravaillé un peu quand même.
Hein, oui. À mon avis, c'est pas le stage en bêta où il y a des bugs d'affichage.
Non, mais surtout, d'un point de vue level design, même si je pense qu'ils l'ont retravaillé. S'ils insistent sur la difficulté du truc, c'est que ça va quand même être dur, tu vois.
Et surtout qu'à l'époque, comme je disais avant, la difficulté des jeux vidéo, c'était un peu plus ardu qu'aujourd'hui. Si même à l'époque, ils trouvaient que le jeu était dur, enfin, le stage était dur, j'imagine pas pour les joueurs qui ont l'habitude des jeux simplistes qu'on a aujourd'hui, quoi.
Disons qu'en plus, enfin, moi, le truc, c'est que Crash, je sais pas, tu sais, après Mario 64, enfin... C'est quand même assez particulier, Crash, si tu veux, ça fait très runner game, en fait, je trouve,
bah,
avec
ouais,
le
c'est
recul.
Ça.
C'est-à-dire que ça fait partie de ces jeux, si tu veux, qui savaient pas trop encore quoi tout refaire avec la 3D. Ils expérimentaient des trucs. Et puis derrière, t'as Mario 64 qui arrive et qui fait « Bon, bah salut les mecs hein. !»
Bah après, enfin pour moi, les deux ne jouent pas du tout dans la même catégorie, dans le sens où Crash, voilà, t'es vraiment dans des couloirs, en fait. Et...
Ouais, c'est pas un vrai jeu en 3D.
C'est
en
ça,
fait,
mais,
c'est
la notion d'exploration est moindre.
C'est pas un jeu qui exploite la 3D comme... voilà, quoi.
Alors que Mario 64 a vraiment, bah, déjà, la palette de mouvements, elle est totalement adaptée au stick analogique de la Nintendo 64, même elle est pensée vraiment pour ce jeu-là. Mario, t'as un petit grassouillet qui peut faire des wall jumps, sauter, rebondir sur les murs. Enfin, t'as l'impression vraiment de contrôler un personnage qui peut se mouvoir dans son environnement, et puis même, les techniques que tu peux appliquer à certains stages, et bah, tu peux l'appliquer dans l'exploration du château pour débloquer des nouvelles zones, etc. Alors que Crash Bandicoot, tu choisis ton niveau, et tu dois arriver du point A au point B, mais c'est un couloir. Ça soit le couloir, soit dans le sens, comme tu l'as dit, la caméra est dos, et Crash doit avancer jusqu'à la fin, et là, t'as le niveau, on va dire, 90% des niveaux sont comme ça.
Ouais, c'est pas un hasard d'ailleurs, c'est parce qu'à l'époque, ils savaient pas trop quoi foutre avec cette caméra, parce que la 3D, il y a beaucoup qui se posaient des questions dessus, quoi. Et c'est pour ça que Crash et plein d'autres jeux, genre Pandemonium ou ce genre de choses, t'as une caméra fixe, parce que la 3D, la caméra, ils savaient pas du tout
comment la gérer.
Et ce, d'autant plus qu'à l'époque, on n'avait pas les sticks analogiques. Hein, faut le rappeler, hein, ça jouait à la croix, hein, Crash. Hein. Donc, tu pouvais pas gérer à la caméra avec le stick analogique 3. Donc, voilà, quoi.
Mais par contre, ce qui avait été bien avec Crash, c'est que Naughty Dog, il savait utiliser la technologie, c'est-à-dire qu'il...
C'était un jeu très propre.
Voilà, le niveau était linéaire et c'était quand même assez joli parce que je vous rappelle même certains jeux comme les Metal Gear etc qui avaient pourtant des caméras fixes, t'avais quand même voilà des niveaux où tu voyais quand tu regardais les murs étaient complètement décalés, enfin c'était pas très très droit quoi on va dire, t'avais des murs qui étaient un peu bizarres et là franchement Crash Bandicoot pour l'époque c'était quand même une prouesse technique sur le plan purement visuel quoi.
Et en plus ils ont super bien vieilli hein, pour avoir vu sur émulateur le jeu tourner, franchement. Ça fait partie des jeux. Bah, comme ils ont un rendu cartoon, ça a très, très, très bien vieilli.
Ouais.
Bref, moi, j'hésite toujours, hein, mais le truc, c'est que je me dis que j'ai tellement galéré à l'époque et je suis tellement moins bon aujourd'hui à ces jeux-là que...
Trop dur.
Voilà. Ouais, ça fait partie de ces jeux où j'étais plus doué en étant gamin. On va enchaîner, mon cher Ben, et on va terminer sur l'Oculus Rift. Qui va baisser de prix?
Eh oui, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'Oculus Rift, avec les manettes, les touch, va passer à 450€ au lieu de 700. Donc, bon, ça reste pas donné, mais ça reste quand même une bonne nouvelle parce que c'est un bon produit. Et bah, 300€ de moins, c'est pas rien.
Et la baisse, elle sera permanente. Par contre, 450€, c'est temporaire. Après, ça passera à 499.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous, du coup, toujours pas tenté ou ça, après c'est toujours la même question, tu vois.
Bah, pour jouer à quoi, en fait.
C'est voilà, ça, c'est ça, ouais. Toujours la même réponse.
c'est le serpent qui se mord la queue, là, en fait.
Bah, hein, ouais, c'est toujours compliqué. Alors, visiblement, si le Resident Evil 7 était sympa à faire avec, mais bon, c'est toujours pareil. Acheter un produit, par exemple, je prends ne serait-ce que celui de la Play qui a... à 300 ou 350€ quand même pour un jeu, ça fait un petit peu cher. Donc pour l'instant toujours pas assez d'expérience voilà pour vraiment en profiter. Donc
mais après je trouve que c'est bon signe en ce sens que petit à petit les prix baissent et qu'à un moment donné ça sera accessible quoi. Voilà. Parce que là qu'on soit clair, hein, 500 balles c'est trop cher pour moi. À 200€ je commencerai à réfléchir.
Après moi, enfin franchement, si je faisais des jeux type simulateur sur PC, automobile ou bien
genre il y a Elite Dangerous, enfin
oui,
je pense simulation spatiale qui est super cool avec l'Oculus.
Ça, je pense que tu vois, c'est les jeux qui peuvent mériter l'investissement d'un type de produit comme ça. Mais après, c'est vrai que pour une utilisation plus grand public telle qu'on la conçoit nous pour jouer à des jeux vidéo. On n'a pas vraiment d'expérience qui nous dirait où il faudrait jouer à l'Oculus Rift et tu pourrais pas y jouer autrement quoi, et c'est ça qui est un petit peu dommage en fait avec tous les casques de réalité virtuelle, que ce soit aussi bien l'Oculus ou bien Astesha Vive ou même le PlayStation VR, c'est qu'il y a certaines expériences qui sont cool. Par exemple moi je pense au Batman que j'ai entendu beaucoup de bien, mais c'est une expérience qui fait 1h30 et finalement en termes de gameplay les déplacements se font, vous savez, en mode un peu téléportation. T'as juste l'aspect détective de Batman, quoi, et c'est pas un truc que...
Ouais, c'est vraiment une expérience VR, c'est pas un
c'est
jeu
ça,
complet,
voilà.
Entre guillemets. Ouais.
Après, moi, enfin, le truc qui serait bien de pouvoir développer pour les casques comme ça de réalité virtuelle, ça serait surtout dans les parcs d'attractions, où là, il y aurait une utilité vraiment grand public. Demain, à Disneyland, ils te mettent une attraction Star Wars, où tu mets un casque et t'es vraiment en train de piloter le X-Wing, et t'es dans l'espace en train de te fight contre l'armée de Dark Vador. Je pense que voilà, il y a moyen de faire des choses assez cool, tu vois. D'ailleurs, je crois sur Star Wars Battlefront, il y a eu un niveau comme ça qui a été fait spécialement pour le PlayStation VR. J'ai pas testé, et c'est un truc, tu vois, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne parce que je me dis que quand même ça doit
être
assez
cool. Mais
après,
c'est toujours le problème, tu vois, c'est de l'ordre de la démo technologique, quoi.
Ouais, non, mais
trop
c'est
souvent,
ça.
C'est ça, quoi. C'est,
mais si tu vas par exemple dans une salle d'arcade et que tu mets par exemple ta pièce de 2€ pour faire une partie et que t'as l'expérience du casque en plus, tu te dis oui, voilà, les 2€, ils ont été investis.
Ah, mais ça, il y a ça, tellement c'est... un truc à faire en arcade, putain, avec ça. Parce que, en fait, moi, l'Oculus, je suis de plus en plus persuadé que c'est un device qui, ouais, pour les salles d'arcade, enfin, en tout cas, pour peut-être pas forcément les salles d'arcade, mais disons que c'est le lieu naturel où je verrai ce genre d'expérience, ouais. Mais en tout cas, un lieu où tu peux essayer la VR dans des jeux et où tu loues le truc, quoi.
Bah, ouais, et puis
même, l'acheter pour chez toi.
Je pense qu'il pourrait y avoir des revivals de certains titres qui, à l'époque de salles d'arcade, avaient fait les beaux jours de leurs éditeurs. Par exemple, je voudrais bien un jeu comme Time Crisis. Hop, tu mets le casque,
le
flingue,
oui,
pour te mettre à couvert, bah tu bouges la tête comme ça contre les coins du mur pour te savoir quand t'es à couvert ou pas. Et après tu vises, enfin c'est le jeu qui est typiquement adapté. Mais après, est-ce que tu vas jouer à Time Crisis chez toi, c'est pas forcément sûr, quoi.
C'est ça. Bref, comme d'habitude, hein, on attendra que la technologie évolue. Encore une fois, moi je pense que c'est un truc de long terme.
Oui.
Mais c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce que les développeurs vont attendre ou est-ce que c'est le grand public qui va se lancer? Enfin, du coup, tout le monde se regarde et personne ne bouge, quoi.
C'est un peu ça.
À un moment donné, il va falloir que quelqu'un se décide à mettre le gros paquet, parce que sinon, ça va pas marcher. Hein.
Oui, c'est ça, ça va tourner en rond, ouais.
Allez, messieurs, on va s'arrêter là pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier podcast de la saison. Ciao à tous.
Salut.
Ciao.